Parfois, je me disais que grandir en étant une fille, c'était apprendre à avoir peur. Pas exactement à être parano, mais à toujours rester sur ses gardes et lucide. Comme quand on vérifie l'emplacement de la sortie de secours au cinéma ou à l'hôtel. Vous découvriez, avec une acuité inconnue dans l'enfance, la vulnérabilité du corps que vous habitiez, ses fortifications imparfaites. À la télévision, dans les journaux, les livres et les films, jamais ce ne sont des hommes qui se font violer, kidnapper, lapider, démembrer ou brûler à l'acide. Mais dans les romans, dans les séries et les films policiers, aussi bien que dans la vraie vie, ça arrive tout le temps, tout autour de vous. Donc vous apprenez en votre fort intérieur que votre corps a besoin d'être protégé. Il est à la fois précieux et totalement négligeable. Tout dépend de qui vous rencontrez. Vous n'avez pas envie d'aller à une fête sans savoir comment rentrer chez vous. Vous n'avez pas envie de vous retrouver à marcher dans la rue, surtout une rue déserte, la nuit sans être accompagné. Et encore moins d'ouvrir votre porte à un inconnu si vous êtes seul. Jamais de la vie, même s'il porte un uniforme. Parce que cet uniforme pourrait être un déguisement. Ça arrive. Je l'ai vu à la télé. Vous grandissez. Et à cause de toutes les histoires qu'on vous raconte, vous apprenez comment est le monde. Et vous commencez à perdre des libertés.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ce sont ces souvenirs-là qui demeurent les plus précis, les plus brûlants, souvent les plus douloureux, parfois les plus merveilleux, ceux de cet âge indéfinissable qui n'appartient déjà plus à l'enfance, mais pas encore vraiment à l'adolescence. Le corps est empêtré, ses nouvelles formes nous le rendent inconnu. Notre visage nous désespère et sous notre crâne des tempêtes se lèvent. La vie, jusque-là pleine d'attraits et de mystères fascinants, nous apparaît désormais parsemée de dangers et de choix angoissants. À cet âge, ce sont les amitiés, passionnées, intenses, exaltantes, qui aident à traverser ces temps incertains et qui marqueront de façon indélébile l'adulte que nous deviendrons. Claire Messude écrit sans cesse sur ces moments de la vie qui nous modèlent, nous fabriquent, nous révèlent, sur ces amitiés plus fortes que l'amour et sur la cicatrice laissée par leur disparition. Son cinquième roman, « La fille qui brûle », paru chez Gallimard dans une traduction de France Camus Pichon, se situe dans la mémoire de Julia, une fille de la bourgeoisie de la côte est américaine, qui se souvient de son amitié fusionnelle avec Cassie, son amie d'enfance, et de l'année où elle s'est brisée. Roman sur la violence du passage à l'âge adulte, sur l'impossibilité de connaître vraiment ceux que l'on aime, sur la perte et les fantômes qui nous accompagnent plus tard dans la vie et font de nous ce que nous sommes. Bonsoir Claire Messude. Vous êtes une déracinée. C'est étrange, vous avez trois passeports, m'a-t-on dit, français, américain, canadien. Votre mère était canadienne, votre père français, d'origine algérienne. Vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que finalement c'est cette absence d'enracinement, d'appartenance très précise qui fait que dans tous vos livres, il y a ces déchirures, ce sentiment qu'ont souvent vos héroïnes de n'appartenir à aucun lieu précis, à aucune classe sociale précise, presque à aucune mémoire précise?
C'est fort possible. Je crois que, en moi, j'ai l'impression que c'est à cause de cette enfance déracinée que je suis devenue écrivain. Parce que, à force de recommencer plusieurs fois, on apprend à écouter, on apprend à apprendre. On se trouve plusieurs fois dans des nouvelles situations. Il faut s'intégrer. Donc, on apprend à observer. Et je crois que, pour être écrivain, il faut se tenir un peu à l'écart. Donc, ça m'est arrivé par la force de la vie, quoi. Et ça me paraît peut-être normal que ça apparaisse dans les romans aussi.
Donc, c'est plutôt une force pour vous.
Oui. Oui, je crois que c'est mon être, quoi. C'est le lieu que, c'est là où, je perds mes mots. Je me trouve toujours à l'écart, même dans la vie maintenant, parce que j'étais enfant en Australie, au Canada, et puis ensuite aux États-Unis. Et j'avais un père français qui se sentait pas du tout américain, une mère canadienne, même moins américaine, parce que, comme vous le savez bien, les Canadiens, surtout ceux qui sont, c'est pas américain. Et donc, j'étais entourée d'enfants américains à la fin, mais à la maison, on me disait, mais t'es pas américaine. Alors, même maintenant, ça fait bien longtemps que j'habite aux États-Unis. Et d'une manière, je suis tout à fait américaine et mes enfants sont américains. Mais moi, j'ai toujours, au fond de moi, un sens de ne pas l'être.
Alors, Claire Messud, il y a aussi des lignes de force dans vos livres. Il y a une très grande mélancolie. Comme si, finalement, grandir, mais quel que soit l'âge, parce que votre livre précédent, La femme d'en haut, c'est aussi une femme qui est au milieu de la vie. Donc, que la vie est pleine de seuils et que passer d'un état à un autre est toujours douloureux et laisse une mélancolie profonde dans vos figures de femmes. Vous êtes habitée vous-même par cette mélancolie?
Peut-être, peut-être. Je crois que c'est la condition humaine de toujours avoir je sais pas, une nostalgie pour ce qu'on avait auparavant, même si on s'attend au futur, même si on est positif. Et c'est pas forcément négatif de retenir cette émotion pour le passé. Mais comme vous dites, on franchit des moments, on traverse des étapes, et chaque passage contient aussi la perte. Il faut perdre ce qu'il y avait avant.
Mais justement, aux États-Unis, on nous dit toujours qu'il y a un optimisme, une volonté de fabriquer à chaque fois son destin. Vous enseignez vous-même l'écriture à Harvard. Et est-ce que vos étudiants sont, par rapport à vous, justement, un peu en déphasage sur cette façon d'aborder la vie? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus optimistes, beaucoup plus volontaires que ce que vous avez envie de leur apprendre, par exemple?
Ce qui me vient à l'esprit quand... C'est le fait que maintenant, et là je ne sais pas si c'est à cause de l'internet et des social media, ils ne lisent que ce qui est courant. Donc même ce qui date d'il y a 15 ans ou 20 ans, les livres, ils ne les lisent pas. Donc Toni Morrison par exemple, on pourrait croire que tous les jeunes la lisent.
Évidemment.
Mais en fait ce n'est pas le cas. Parce que pour eux, c'est les nouveautés, c'est ce qui vient de sortir qu'ils veulent lire. Donc... C'est vrai, de cette manière, ils ont aucun sens du passé. Même d'il y a 20 ans, ça leur paraît loin, perdu.
Et vous nous parlez de Harvard, donc c'est...
Oui.
On a du mal à imaginer ça.
Oui, tout à fait. Ouais. Entre eux, il y a bien sûr, il y a des jeunes qui lisent, je sais pas, George Eliot ou Virginia Woolf. Bon, c'est pas tout le monde. Mais en somme, on a l'impression que, d'une manière qui n'était... Je crois que c'était pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans. C'est pour ça que je me demande si c'est à cause des médias sociaux.
Oui, ouais. Des réseaux sociaux.
Des réseaux sociaux, ouais. Et voilà. Maintenant, c'est vraiment... On fait face au futur et on ne pense qu'à ça. Et en même temps, ils écrivent beaucoup de science-fiction, en plus. Ouais.
Bon, c'est un autre monde, donc. Revenons à vos livres, Claire Messud. L'amitié est un thème absolument fondamental dans vos livres. Vous avez même écrit là-dessus. Tous vos livres précédents font part de ce moment-là. J'ai l'impression que pour vous, l'amitié est quasiment un sentiment plus fort que l'amour. On a l'impression que l'amour passe et qu'on peut s'en remettre, alors que les amitiés perdues, on ne s'en remet jamais vraiment.
Oui, peut-être. Je crois qu'on s'attend à ce que l'amour passe, même si ça ne passe pas. On se dit, c'est la nature, c'est le trajet de l'amour, quoi, que ça finit par passer. Tandis qu'on a l'impression que l'amitié, c'est pour la vie. Et en fait, c'est pas toujours le cas.
Et puis surtout, ça peut provoquer, au fond, des jalousies, des drames parfois, presque plus forts que les drames amoureux. Je pense à La femme d'en haut, c'est vraiment quelque chose qui devient complètement obsessionnel. Et là, entre Julia et Cassie, c'est aussi quelque chose qui est très dramatique pour la construction de ces deux filles.
Tout à fait. Et dans ma tête, ces deux livres font un peu...
Se font écho.
Voilà. Ouais. Mais par contre, les amitiés sont différentes. Et Nora, dans La femme d'en haut, c'est vrai, elle est obsessionnelle. Je crois que pour elle... C'est comme si elle n'était pas vraiment adulte, je sais pas.
Ouais.
Tandis que pour les jeunes, pour Julia et Cassie, ça me frappe différemment. Je me dis que quand on est enfant, on n'a pas vraiment de frontières entre soi et l'autre. Et donc, on ne se dit pas qu'on est, on est séparé. Et le passage à l'adulte, c'est le moment où on reconnaît qu'on est isolé, on est seul dans le monde. Et vers 12, 13 ans, on va passer la nuit chez une amie et on se dit, on regarde autour de soi, on se dit, mais c'est pas comme chez moi. Donc, soit on est normal chez moi, soit c'est normal ici, mais les deux, on peut pas réconcilier les deux. On peut pas dire que... Donc, on se compare aux autres, on se dit, qui suis-je? Et comment vais-je m'établir à côté des autres? La perte de l'amitié entre les deux, c'est en fait en partie parce que chacune des filles doit faire face à qui elle est.
Alors justement, dans La fille qui brûle, ce dernier roman qui vient de paraître chez Gallimard, Claire Messud, il y a Julia, il y a Cassie, elles sont ensemble depuis le jardin d'enfants, la maternelle. Elles grandissent comme si elles étaient deux esprits dans le même corps. Elles sont inséparables, elles s'aiment d'amitié profonde et c'est le temps, le livre est en trois parties. Et dans la première partie, c'est ce qu'on appelle le vert paradis des amours enfantines, elles se racontent des histoires, et elles ont lu des contes, elles ont appris la mythologie et elles découvrent un bâtiment abandonné. C'est un ancien asile et elles y passent un été formidable.
Nous pensions toutes deux au nombre démentiel de jours pendant lesquels le bâtiment était resté vide. Bien plus de jours que tous ceux de notre vie, mais un peu moins que si on mettait nos deux vies bout à bout, et au fait que pendant chacun d'eux, il avait pu se passer n'importe quoi entre ces murs. Le plus étrange était que la plupart du temps, ou presque, il ne se soit rien passé. Plus de 6000 jours et nuits de silence total, dans une habitation désormais inhabitée, abandonnée aux araignées, aux tamias, aux merles, et un renard occasionnel. C'était oppressant. De même qu'on est oppressé par le ciel nocturne, quand allongé sur le dos dans l'herbe, on le contemple, lui et tous ses minuscules points lumineux, et qu'on imagine la distance inimaginable entre ses étoiles et la Terre, et la durée nécessaire à la lumière pour parvenir jusqu'à nos yeux, si considérable qu'en réalité l'étoile ayant émis cette lumière n'existe sans doute plus depuis longtemps. « Tu vois les dames de la haute société descendre les marches ?» a soufflé Cassie à l'oreille, dans leur robe du soir. « Arrête !» Cassie m'a prise par le bras. Nous regardions toutes deux la poussière flotter dans un rayon de soleil en travers du palier en haut de l'escalier. Nous les sentions, là, avec nous. Je savais que Cassie sentait comme moi leur présence. Elles étaient nos sœurs. Me trouver dans cette ruine avec Cassie faisait naître un sentiment très particulier que je n'ai éprouvé nulle part ailleurs. Si jamais je l'éprouve à nouveau, je le reconnaîtrai aussitôt, comme un parfum longtemps oublié, et cet après-midi-là et les suivants me reviendront avec une intensité viscérale. Bonnybrook représentait à la fois l'expérience la plus invraisemblable et la plus marquante de notre vie jusqu'alors, et un rêve. Un rêve que Cassie et moi faisions miraculeusement en tandem, partageant les sensations, les sons, les émotions. L'asile, assombri par la trace de ses différents passés, nous titillait, nous effrayait même à cause de ses silences. Mais ce partage nous rassurait. Être à Bonnybrook, c'était comme être en même temps dans la tête de Cassie et dans la mienne. Comme si nous avions un seul esprit et pouvions en explorer les limites, ensemble, inventant des histoires et nous transformant à notre guise.
Claire Messud, au début de ce livre, La fille qui brûle, les deux filles sont encore des enfants. C'est-à-dire qu'elles peuvent rêver à se faire peur dans un bâtiment qui inspire un peu la crainte, raconter des histoires un peu terrifiantes, mais au fond, elles savent très bien qu'elles vivent dans l'imaginaire et que la vie est bonne pour elles. C'est le moment de bascule et vous, vous le placez à la classe de cinquième, ce moment où tout d'un coup, eh ben, le danger devient réel. Quelque chose change parce que les corps changent. C'est la transformation du corps qui fait changer l'esprit.
Oui, oui, mais pas uniquement. C'est la transformation du cerveau aussi. Je crois, on m'a dit que les changements neurologiques entre l'âge de 11 et 14 ans ou 12 et 15 ans sont aussi énormes que ceux entre 0 et 3 ans. Mais étant bébé, on ne s'en rend pas compte. Tandis que adolescent, c'est au centre, on reconnaît qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas son corps, bien sûr, mais en même temps, ses pensées, la sexualité qui s'ouvre au monde, les pensées, tout ce qu'on est change. Donc, je crois que c'est l'être entier, quoi.
Mais surtout, ce qui est intéressant dans la description de ce passage un peu terrible pour les deux filles, vous le disiez, il y a un moment, Claire Messud, c'est le moment où on regarde la vie de l'autre. Jusque-là, Cassie et Julia, Julia est d'un milieu un peu plus favorisé, elle a un père, une mère, une maison un peu confortable, une vie de famille douce, alors que Cassie est fille d'une mère isolée, qui n'a pas beaucoup d'argent, et très vite, elles commencent à se rendre compte qu'elles ont des goûts différents. Et vous notez quelque chose qui est sans doute à l'origine d'ailleurs de cette fracture entre les deux filles, c'est que les rêves de Julia sont des rêves extrêmement raisonnable, elle veut faire des belles études, aller à l'université, avoir un métier intellectuel, alors que la petite Cassie se doute bien qu'elle n'a comme avenir que d'être coiffeuse ou ouvrière à l'usine. Et au fond, c'est le moment où elle commence à regarder leur mode de vie. Est-ce que c'est justement cette séparation économique et sociale entre deux amies qui fait que là, la rupture sera la plus grave?
Ben, oui, en partie aussi. Donc, il y a le fait de la transformation physique et mentale, et puis il y a aussi les questions économiques. Donc, ça, tout fait partie de ce passage. Et pour Cassie, la question se pose, comment puis-je me créer mon propre futur? Un futur qui ne me sera pas donné par les autres. Et du moment où sa mère rencontre cet homme qui vient, Anders, qui vient vivre avec eux, et lui, il est très contrôleur, il veut vraiment contrôler Cassie et ses mouvements et ses intérêts et tout. Et c'est à Cassie de trouver dans son propre imaginaire un moyen de s'en sortir. Et pour moi, comme vous l'avez dit, la première partie du roman, les enfants vivent dans l'imaginaire. Mais ensuite, on pourrait avoir l'impression qu'elles ne font plus. Mais en vérité, comme nous tous, c'est un autre genre d'imaginaire. Mais c'est une vie inventée tout de même. Pour Cassie, qui invente un futur et qui part à l'aventure. Et pour Julia, qui croit si bien connaître sa copine qu'elle pense qu'elle puisse inventer son histoire.
A shell for you hear a sigh, a foggy lullaby. There is your song from me.
Cassie semblait passer beaucoup de temps seule. Lorsque cela m'arrivait, or j'aimais bien rester seule dans ma chambre, à lire sur mon lit, à écouter de la musique ou à contempler les étoiles phosphorescentes que mon père avait collées au plafond quand j'étais petite. J'entendais les pas de ma mère dans la maison, le grincement des lames du parquet à l'étage ou le lointain murmure de la radio de la cuisine. Et puis je sentais l'odeur du dîner, les oignons dans la poêle, le fumé d'une viande en train de cuire, ou le délicieux parfum d'une tarte qui dorait dans le four. Même quand j'étais seule, j'appréciais de savoir que je ne l'étais pas totalement. Mais rien de tel pour Cassie. Depuis tant d'années qu'elle et moi étions amies, en fait depuis toujours, nous employons les mêmes mots, tout en pensant peut-être à des choses différentes, tantôt légèrement différentes, tantôt radicalement dissemblables. Et nous ne nous en étions jamais rendu compte. Comme si, durant tout ce temps, j'avais eu dans la main une pomme et que je l'avais prise pour une balle de tennis. Le mot « maison », par exemple. Pour moi, il évoquait notre vieille demeure, pleine de craquements, avec sa chaudière poussive et ses vitres qui vibraient, rendues plus petites et familières par les innombrables piles de magazines et de linges repassés que ma mère laissait traîner. Par la musique classique, ou les voix de la radio en bruit de fond. Par le passage d'amis et de proches. Par la certitude que même quand mon père était au travail, je pouvais ouvrir ma fenêtre et pratiquement l'atteindre en lançant une balle ou une pomme. Presque chaque jour, mes parents me prenaient dans leurs bras. Et quand je lisais le soir au lit, l'un d'eux venait presque toujours m'embrasser avant que j'éteigne. Rituel datant de ma petite enfance et auquel je restais attachée. La maison, c'était le sentiment de s'endormir au son étouffé des conversations de vos parents qui montaient à travers le parquet, comme une réverbération. Non seulement dans vos oreilles, mais dans tout votre corps. C'était aussi un ensemble bien particulier d'odeurs familières. Celle de la savonnette parfumée à l'eau de fleurs d'oranger dans la salle de bain du rez-de-chaussée, ou les relents de fumée du feu de bois, même en été, quand il pleuvait. Et ces poches d'air chaud près des grilles de ventilation, suivies d'un courant d'air froid près des fenêtres. C'était encore la certitude qu'il y avait toujours quelqu'un à proximité.
Claire Messud, cette lecture de La fille qui brûle appartient à la deuxième partie, au moment où, entre Julia et Cassie, les vies vécues commencent à diverger. Et c'est une lecture très fine et en même temps très amère de cette différence fondamentale. Julia sait qu'elle a une famille sur laquelle elle peut s'appuyer. Et comme elle le dit, elle aime être seule, mais elle sait qu'à côté d'elle, il y a du monde. Des gens qui l'écoutent, des gens qui l'aiment, qui vont la soutenir dans ses projets d'avenir. Alors que Cassie est seule, on a l'impression que, en fait, tant que Julia s'attarde un peu dans l'enfance, Cassie, elle est déjà passée à l'âge adulte. Et c'est un passage très amer. C'est un moment où elle découvre son pouvoir sexuel, parce qu'elle est belle et elle sait que les hommes, même plus âgés, la regardent. Et elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle, pour essayer d'échapper à cette petite ville qui est très typique aussi des romans américains, cette petite ville où les gens de la bourgeoisie des grandes capitales rêvent de venir se retrouver plus près de la terre et qui, au fond, est un concentré aussi de regards, de conventions, d'enfermement. En fait, sous des dehors très, très doux, vous décrivez des choses assez violentes quand même.
Oui, et pour choisir l'endroit où situer mon roman, j'ai quand même pas mal cherché, parce que j'habite à Boston, et je me suis dit, à Boston, déjà depuis l'enfance, les filles seraient sinon séparées, dans des écoles différentes, elles seraient pas amies, ça se passerait pas. Donc il fallait trouver un endroit, donc je voulais pas qu'elle soit trop loin d'une grande ville, mais dans un village, quoi, une petite ville, où elle resterait amie assez tard quand même.
En dépit des différences sociales.
Voilà, ouais. Voilà. Et où elle se retrouverait dans le même lycée. Vous avez dit une ville typique et américaine et d'une certaine manière, c'est vrai, mais en même temps, les endroits aux États-Unis sont tellement spécifiques, il a fallu, parce que si je l'avais situé dans l'ouest de l'État, c'est plus rural, mais aussi il y a plein de collèges, donc il y a plein de familles universitaires qui se trouvent, Amherst College, Mount Holyoke College. Donc, ce serait pas l'atmosphère que je cherchais. Donc, j'ai trouvé, je sais exactement où la ville, qui n'existe pas, serait entre Boston et le New Hampshire, qui est à une heure au nord. Et vraiment, cette combinaison de douceur et de violence, je crois que ça se retrouve dans plusieurs endroits ou plusieurs situations, mais il fallait chercher précisément quand même.
Puis il y a aussi ce poids de la religion que vous décrivez très précisément, Claire Messud, parce que l'homme qui vient habiter avec la mère de Cassie est un homme qui, en tout cas, a toutes les apparences de la rigueur religieuse. Il surveille énormément l'évolution de sa belle-fille. Il y a un poids terrible. Il n'y a pas du tout de tendresse. Il n'y a pas du tout de compréhension, à l'inverse de ce qui se passe dans la famille de Julia, où on donne confiance aux enfants. Là, Cassie, on a l'impression, au fil des pages de votre livre, de la voir se dessécher de l'intérieur, devenir de plus en plus amère. C'est une très jeune fille et elle devient amère. Et la conséquence, c'est qu'elle n'a plus aucune considération pour elle. C'est terrible, ça.
Oui, et ce que j'envisageais, en fait, c'est qu'auparavant, quand elle était enfant, sa famille, c'était sa mère et elle. Et puis, elle avait un père absent, mais...
Comme un héros.
Comme un héros, un ange gardien. Elle l'envisage comme un ange gardien. Et puis, tout d'un coup, avec l'arrivée de cet homme, et je peux pas condamner la mère non plus. Bah, à la fin, oui, mais sa mère qui a vécu tant d'années sans amour, et tout d'un coup, elle a sa tête tournée par un homme qui lui fait la cour. Et lui, c'est un homme assez sinistre. Bon, à mon avis, et je voulais laisser pas mal de choses
ouvertes. Oui, il n'y a pas beaucoup de réponses aux questions qu'on se pose. C'est ça qui est bien, d'ailleurs.
Parce que je me dis que la vie est comme ça. Dans la vie, on n'a pas les réponses. Donc, si je vois ma mission en tant que romancière d'écrire la vie comme je la trouve, donc je ne peux pas donner de réponse. Mais pour lui, la religion est peut-être une sorte d'artifice.
De masque, comme un masque.
Pour arriver à contrôler cette femme et cet enfant. Et pour se créer pour lui-même un petit royaume où il est roi. Et la mère... donc c'est à ce moment-là que c'est la faute de sa maman, de Bev, qui ne protège pas sa fille. Et qui n'arrive pas à voir, qui est tellement perdue dans son histoire d'amour, qu'elle ne voit pas ce que ça coûte à Cassie. Et c'est vrai, on dit en anglais that a child blossoms.
Oui, un enfant en fleurs.
En fleurs, voilà, ouais. Mais ouais. C'est l'opposé, en fait. Ouais. Elle est en train de...
On la dessèche complètement. Et d'ailleurs, dans la troisième partie du livre, les filles sont séparées. Elles sont devenues vraiment des adolescentes. Et au fond, ce que Julia a appris dans son histoire d'amitié brisée avec Cassie, c'est qu'en fait, et c'est un thème récurrent de vos livres, Claire Messud, c'est qu'on ne connaît jamais ni ceux qu'on aime, ni ceux avec lesquels on vit et qu'on croit connaître, comme par exemple une mère et une fille.
Qu'est-ce qui n'a pas de sens, ai-je dit à ma mère. Ça t'amène à te poser des questions, ce que tu ne sais pas, ce qui se passe tout autour de toi et que tu ne vois pas. Je m'interroge, Julia, ma fille si précieuse. Ai-je vraiment la moindre idée de ce qu'est ta vie ou de qui tu es? Ne sois pas ridicule, maman. Mais elle n'avait pas entièrement tort. Moi aussi, j'avais récemment pris conscience de la solitude de chacun de nous, du peu de nous-mêmes et de notre existence que nous partageons. Bien que nous partagions certaines pièces, certaines heures, certaines conversations, toute ma vie, j'avais connu Cassie. Ses gestes, ses expressions et le timbre de sa voix, le fonctionnement de son esprit et son sens de l'humour, ce qui nous rapprochait et ce qui nous différenciait. N'étions-nous pas secrètement sœurs, reliée comme par un cordon ombilical. Mais j'avais détourné d'elle mon regard. Et presque aussitôt, semblait-il avec le recul, elle avait changé. Les choses avaient changé. Des jours avaient passé, un à un, et des mois durant lesquels j'étais restée, ou croyais être restée, la même Julia. Mais qui pouvait l'affirmer ? Et pendant ce temps-là, alors que j'empruntais des chemins familiers, la vie de Cassie s'était modifiée, au point de devenir méconnaissable. Derrière la grille, derrière la porte de la petite maison de l'impasse, jusqu'à ce que je ne connaisse plus ce que je croyais connaître, et que la personne qui m'était si familière se transforme intérieurement en une étrangère. J'ignorais alors ce qu'elle pensait, quelles expériences elle faisait, et pourtant, d'instinct, j'avais su la retrouver. Elle n'avait pas tant changé que ça. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était qu'elle ne voulait pas être retrouvée, et que le dernier regard qu'elle m'adresserait serait plein de rage. Dans la cuisine, avec ma mère, j'ai eu pour la première fois l'intuition adulte qu'elle aussi avait peur de cet abîme. Non pas concernant Cassie, mais me concernant moi, ma mère et moi. J'ai compris qu'elle croyait m'avoir connue, moi, la chair de sa chair, venue au monde entre ses cuisses, toujours près d'elle, mais restant encore quelque part en elle, et qu'elle redoutait à présent, pour la première fois peut-être, de ne pas me connaître du tout. Je me suis retournée et l'ai prise dans mes bras. De nous deux, en fait, c'était désormais moi la plus grande. Je l'ai serrée contre moi. J'ai embrassé sa joue si douce et lui ai de nouveau dit, à l'oreille cette fois, « Ne sois pas ridicule, maman. » Puis, il n'y a rien à craindre. Si souvent ma mère avait prononcé ces mots, avait eu ce geste d'amour pour me rassurer, mais c'était la première fois que je faisais cela pour elle. La première fois également que je comprenais que cette dernière phrase n'était pas forcément vraie.
Claire Messude, au fond, devenir adulte, c'est survivre à son enfance, parce qu'on a l'impression qu'il s'agit vraiment de survivre. Ce passage est terrible, parce qu'il y a quelque chose de brisé chez vos héroïnes.
Moi, je crois qu'il y a quelque chose de brisé chez tout le monde, en fait. Je me trompe peut-être. je voudrais pas être pessimiste, mais ce que chacun vit en traversant ce passage entre l'enfance et la vie adulte, ça nous change. C'est comme un forgeron.
Oui,
c'est comme un forgeron. On est changé. Chacun est changé. Et parfois, c'est moins dur. Pour Julia, le passage sera moins dur que pour Cassie. Mais en fait, ce sont ces années qui déterminent l'adulte qu'on sera. Et je dis toujours, on peut regarder n'importe qui adulte, et si on ne les comprend pas, si on les envisage à l'âge de 14 ans, tout devient clair. On comprend tout.
Mais finalement, pour Cassie, comme pour Nora dans votre roman précédent, La femme d'en haut, en fait, c'est un moment terrible dans la vie, que ça se passe à l'adolescence ou au milieu de la vie, comme pour Nora, c'est de se rendre compte que on a eu des rêves, on les a poursuivis, mais que voilà, le poids de la famille, le poids du manque d'argent, le poids du lieu d'où on vient, ou son manque de talent, ce qui est aussi terrible, a fait que le rêve a volé en éclats et qu'il faut vivre sans rêve. Ben c'est ça, être adulte, c'est vivre sans rêve.
Ou sans rêve, pas forcément, mais trouver peut-être d'autres rêves. Je crois que c'est. Je me rends compte, j'ai 51 ans et je regarde autour de moi et j'ai plein d'amis qui se mettent à jardiner. Et je crois que on l'a pas fait plus tôt. Mais je crois qu'on se rend compte que c'est un rêve qu'on peut réaliser. On peut quand même planter des plantes et les voir grandir. C'est beau à voir. Les rêves évoluent. On change quand même. Mais c'est pas vivre sans rêve, mais c'est peut-être souvent perdre ses premiers rêves.
Et oui, c'est ainsi. La fille qui brûle, donc de Claire Messude, dans une traduction de France Camus Pichon, ça vient de paraître aux éditions Gallimard, et c'est un livre voilà qui nous rassure, parce qu'on se sent moins seul hein, quand on le lit, ce qui est quand même l'intérêt de la littérature, même si ce que vous nous avez dit sur les étudiants d'Harvard, j'ai un choc, je ne m'en remets pas là quand même sur la lecture. Mais bon, il faut se battre pour que la lecture demeure. Merci à vous, Claire Messude.
Merci à vous.
Au revoir.